France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans les marais, dans les fourrés, dans les bois, il y a des concerts uniques au monde, selon l'écho, la végétation, des duos et des duettes d'oiseaux. Tous les oiseaux chantent-ils ? L'oiseau est-il musicien ? La réponse a varié à travers les époques et peut-être les lieux. Une fauvette Orphée chante très bien en Grèce, mais la même très mal en France. Alors musique, mélodie, harmonique, rythme, tonalité. On devine que le chant d'un rossignol, c'est de la musique, mais le cri d'un canard, c'est du bruit. Les oiseaux chantent pour défendre leur territoire, pour attirer la femelle. Il existe certains oiseaux qui imitent tous les autres oiseaux, ou même des bruits, des trains, des mobilettes. On peut parler des passereaux, les troglodytes, les plus beaux chanteurs du monde, qui ont leur langage. Pour parler des oiseaux, il faut un musicien, un ingénieur du son. Voici la rediffusion d'une nuit magnétique, proposée pour la première fois sur France Culture le 26 février 1998.
Nuit magnétique, bonsoir.
C'est bon ? On est quatre là ?
Mercredi 15h. Nous arrivons enfin à Mans, après 3 heures de train et 1 heure de voiture sur des petites routes sinueuses et enneigées. J'ai découvert le travail de Jean-Claude Rocher il y a un an, alors que j'avais vainement essayé pendant des mois d'enregistrer une chouette qui rôde autour de ma maison. Finalement, découragé par mes difficultés à fixer ce petit bout de son sur de la bande magnétique, je décide d'aller rencontrer cet homme qui a passé sa vie à écouter le chant des oiseaux. Un bref coup de fil pour annoncer mon arrivée, je dépose mes bagages au village, chez l'ami peintre et hôtelier de Jean-Claude Rocher.
On habitait le même village, en fin de compte, enfin, avant qu'il soit installé à Mans. On était à 100 mètres l'un de l'autre, et donc c'est vrai qu'on s'est tout de suite rapprochés parce qu'on avait un certain amour de la nature. Moi, par mon métier de peintre, et lui, par son métier, si on peut appeler ça un métier, ben c'est plutôt un art, d'enregistrer le chant des oiseaux, quoi. Enfin, les chants de la nature, en général. Hein. C'est un homme qui est très attachant, parce que, déjà, de le voir avec sa parabole, ses écouteurs, partir le matin, des fois, très très tôt, parce que je crois que les chants d'oiseaux, autant je m'en souvienne, comme il m'en a parlé, c'est plutôt au petit matin qu'on enregistre un petit peu tout ça. Et c'est vrai que le personnage m'a intéressé parce que je voyais bien qu'il sortait du commun. Il suffit de voir un peu sa stature, son allure, qui est très débonnaire, comme ça, un peu décontracté. Et puis, vous savez, je crois qu'on peut pas toujours expliquer les gens, mais plus les ressentir, en fin de compte. C'est plus une histoire de cœur qu'autre chose. Bon, mais c'est comme ça. Je vous dis pas qu'on se voit très, très souvent. Loin s'en faut, mais je crois qu'il y a beaucoup d'amitié. Et pour moi, j'ai une certaine admiration envers le bonhomme parce qu'il est vrai qu'il... Quand on dit être particulier, on croit toujours... On voit toujours plutôt quelqu'un un peu en dehors des sentiers battus, ce qui est son cas, mais je vous dis, c'est lié à son métier, qui est un peu... Ils sont assez rares, je crois, d'ailleurs, les gens comme lui. Hein. Enfin, quand il n'y en a pas tellement, même à travers le monde. Hein. Mais il est vrai que lui, il est plus souvent dans, dans ces marais, ces fourrés, ces bois, pour enregistrer. Donc on le voit peu ici sur Mince. Hein. Mais je crois qu'ils ne s'occupent pas des gens non plus. Alors bien entendu, quand on s'occupe pas des gens, alors ça alimente encore plus le local. Et il est vrai qu'au départ, on met toujours très longtemps à être accepté. Est-ce qu'on l'est seulement un jour? Je ne sais pas. Parce que comme disent les gens d'ici, il n'est pas d'ici. Alors là, ça veut tout dire. Voilà.
Un oiseau au micro, Pascal Mons, Marie-Laure Ciboulet.
Le deuxième est un peu plus loin, il est moins centré sur la parabole. Là, il n'a pas répondu. Et là, pour l'instant, c'est un seul oiseau qui fait toute la frappe. Là, là, là. Voilà. Ça, c'est un peu. Et maintenant, c'est les deux. Toro, c'est un oiseau. Et Tororo, c'est le deuxième. C'est fou, hein? Bonjour, oui, je suis là. C'est un autre individu qui est là. Et vous voyez le timbre qui peut être tout d'un coup agressif, comme un chat qui se bat. C'est le même oiseau.
C'est le même oiseau.
C'est le même oiseau. C'est la même espèce, le même oiseau qui est capable de faire des timbres très doux. Là, c'est pareil. Un oiseau toro, l'autre. Un, deux. Toro. C'est la réponse. En fait, il y a un deuxième couple qui est là et qui alarme en même temps. Qui crie, qui n'est pas content. Là, on entend bien les deux, là. Il prend un ton en dessous et il remonte.
En même temps.
Oui, absolument. Il prend un ton en dessous et il remonte ensuite. Hein. Ça, la dernière note, plus haute. Oui, on entend les deux. Il y en a qui fait to to to, il y en a qui fait to à la quinte. Il fait.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il change de motif.
Tout le temps, oui. Tout le temps, ils ont 10 ou 15.
Et le deuxième, celui qui termine, il ne se fait pas piéger.
Là, il y en a pas. Là, il est au milieu, il met un autre au milieu. Ah, maintenant, c'est changé. Voilà, là, c'est mineur. C'est ce do, mi bémol, mi do, puis après, vous allez voir, à la fin, il va finir en majeur.
On peut venir aux oiseaux de plusieurs horizons. J'ai des amis qui sont venus à l'enregistrement des oiseaux parce qu'ils étaient des techniciens. Et comme c'est une prouesse, c'était une prouesse. Maintenant, avec le numérique, c'est plus une prouesse. Mais c'était une prouesse il y a 30 ou 40 ans d'enregistrer les oiseaux bien. Ils sont venus par défi technique. Et après, ils sont passionnés pour les oiseaux quand ils les ont découverts. On peut être aussi un scientifique. On peut avoir besoin de classer les champs d'oiseaux, etc. Et alors, à ce moment-là, on met une étiquette dessus. On enregistre un oiseau pendant 2 minutes. On dit grive musicienne, on met une étiquette et on est content. Et moi, je travaille un peu différemment, c'est-à-dire que quand je rencontre une grive musicienne, pour moi, ce n'est pas la grive musicienne, Turdus musicus, une étiquette dessus dans un placard, pour moi, c'est un individu, c'est un être qui est unique au monde, qui a son chant, car chaque grive musicienne a un chant différent. Et pour moi, c'est la rencontre avec un être, et cet être est un musicien. Et par conséquent, je suis passionné, et si cette grive chante bien, parce qu'il y en a qui chantent très bien, d'autres qui chantent pas du tout bien, et si cette grive chante bien, je vais l'enregistrer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pour essayer d'avoir tout son répertoire, de savoir tout ce qu'elle peut me dire. Et ensuite, je vais peut-être même lui repasser son chant, ce qui va l'exciter davantage, elle va croire que c'est un autre mâle qui vient sur son territoire, et elle va encore me sortir des airs qu'elle sort pour les occasions rares. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de son répertoire. Donc, moi, j'ai affaire, non pas à un nom scientifique avec une étiquette, mais j'ai affaire à un être vivant qui est musicien et qui. Et c'est une rencontre, en fait. C'est une rencontre vivante pour moi. Voilà. Mm-hmm. Et c'est aussi une rencontre avec un lieu. C'est-à-dire que dans chaque lieu de la Terre, sur chaque continent, dans chaque massif de montagne, dans chaque vallée, il y a un concert qui est unique au monde parce qu'il est fait des espèces qui sont là, il est fait. Aussi des échos qu'il peut y avoir, du type de végétation. Selon la végétation, ça fait des échos tout à fait curieux. Par exemple, en Pologne, j'ai enregistré dans la seule forêt primaire qui reste En Pologne, la forêt de Białowieża, il y a des troncs très très gros qui font plus d'un mètre d'envergure, qui sont les uns à côté des autres. Bon, ça fait comme des murs, et le son est exactement celui d'une cathédrale. C'est la seule forêt au monde qui sonne comme ça. Et quand on a été dans cette forêt, on ne peut pas ne pas être absolument subjugué, non, pas seulement par les oiseaux qui sont là, mais qui sont presque les mêmes que chez nous, mais par ce son de ce lieu qui est complètement spécial.
Celle des beaux jours lorsque nous avions. Comme l'hirondelle. Tout l'espace à nous tout le temps. Je voudrais l'écrire pas comme un savant. Je voudrais l'écrire comme l'hirondelle.
Est-ce qu'on parle de chant tout de suite pour les oiseaux ou est-ce qu'on doit parler d'abord d'une émission sonore? Et est-ce qu'on parle d'un chant pour tous les oiseaux?
Bon, ça, c'est la grande question, en fait. C'est la grande question que les scientifiques agitaient il y a 40 ans en disant est-ce que l'oiseau est musicien ou pas? Alors, la réponse à l'époque était non. L'oiseau n'est pas musicien, alors... Il y a des gens comme Bucnel qui niaient farouchement que l'oiseau soit musicien, etc. Et puis depuis, il y a eu des études qui ont été faites, notamment par Thorpe en Angleterre, par les Américains, etc. Et puis on a fait des études aussi en ordinateur, c'est-à-dire qu'on a mis toutes sortes de musiques dans des ordinateurs, et puis on a mis toutes sortes de bruits. Et l'ordinateur, il sait reconnaître si c'est une musique ou un bruit, parce qu'un bruit, ce sont des sons qui sont dus au hasard. Dans une musique, il y a une mélodie, il y a des harmoniques, il y a des dissonances, il y a des intervalles, il y a des hauteurs de notes, il y a des rythmes, il y a des tonalités. Et donc, l'ordinateur, lui, il formule si on sort le cri d'un canard, il dit que c'est du bruit. Mais si on sort le chant d'un rossignol, il dit que c'est de la musique, quoi. Pourquoi? Parce que ce sont des sons qui sont organisés dans le temps, sur une échelle musicale, ce ne sont pas des notes tenues, mais c'est la même chose, avec des contrastes de thèmes, il y a toute une organisation, il y a une création vraiment de mélodique et rythmique qui est évidente. Alors maintenant, c'est universellement accepté, mais quand je disais il y a 40 ans que les oiseaux font de la musique, je passais pour un fou, voilà.
Donc si maintenant le chant est accepté, il y a le chant en tant que phénomène... biologique.
Oui, non, mais le chant a une signification. Hein.
Oui.
La musique aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. Par exemple, un monsieur qui chante très fort la nuit tout seul sur la route, c'est parce qu'il a peur. Il chante une chanson, mais pourquoi est-ce qu'il la chante? Parce qu'il a peur. Eh bien, l'oiseau, la plupart des oiseaux chantent pour défendre leur territoire et pour attirer leurs femelles, ça c'est clair. C'est admis, pas pour toutes les espèces, mais pour une très très grande majorité d'espèces. Il y a quelques espèces qui font exception. Par exemple, en Amérique, il y a le mockingbird aux États-Unis qui, on a fait des études, il commence à chanter à l'âge de 4 semaines jusqu'à sa mort, sans arrêt. Et en plus, il imite tout ce qu'il entend. Il peut imiter 100, 200 espèces différentes autour de lui. Il peut imiter une mobylette, il peut imiter la sirène des pompiers, il peut imiter tout ce qu'il veut. Il s'amuse à ça, il joue toute sa vie à chanter, que ce soit pendant le cycle de reproduction ou en dehors. Et de même, un perroquet qui est tout seul dans une cage, qui ne se reproduira pas, puisqu'il est tout seul dans une cage pour la vie, dans un appartement à Paris, il va passer son temps à imiter et à chanter aussi. Bon. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que le chant soit uniquement destiné à la reproduction, mais il est essentiellement, principalement destiné à la reproduction. Pourquoi ? Parce que l'oiseau est un être tout petit, qui souvent est brun, marron, qui pèse quelques grammes. Dans la nature, il ne se voit absolument pas. Et comment peut-il défendre son territoire ? Comment peut-il attirer sa femelle et garder un contact avec elle s'il ne chante pas ? Il ne pourrait même pas vivre deux jours s'il n'y avait pas un lien vocal entre le mâle et la femelle et s'il n'y avait pas cet avertissement territorial qui est le chant. Et il n'y aurait pas de vie possible, il n'y aurait pas de reproduction possible, en fait. Nous, évidemment, on est gros, on est à des couleurs voyantes, on a une voiture, une grosse voiture, etc. On se voit, entre nous, on se voit. Mais deux troglodytes dans une forêt, ils ne se voient pas, même s'ils sont à 10 mètres l'un de l'autre. Ils sont donc obligés d'avoir une liaison sonore en permanence. Donc, plus l'oiseau est petit, plus la liaison sonore est importante. Par exemple, les aigles, eux, quand ils passent dans le ciel, tout le monde les voit, tout le monde a peur. Les oiseaux s'arrêtent, ou s'il y a un autour, par exemple. Ils n'ont pas besoin de chanter. On les voit parce qu'ils font des mètres d'envergure et qu'ils sont redoutés, etc. Mais le petit troglodyte, lui, il est obligé de chanter. Et alors, au niveau de l'évolution des êtres, il y a eu des tas d'oiseaux primitifs, par exemple. Il y a eu, il y a 150 millions d'années, l'Archéoptérix, qui était en fait un dinosaure. Bon, qui devait crier un peu comme un dinosaure. Et puis maintenant, on est arrivé au rossignol, avec des phrases délicates, avec des timbres très travaillés, des mélodies très pures. Enfin, c'est cet itinéraire qui va du dinosaure au rossignol, qui est resté dans toutes les familles d'oiseaux, puisque, par exemple, les oiseaux qui ont 50, 60 millions d'années, ou mettons 80 millions d'années, comme les mouettes, les hérons, tout ça, font des cris. Comme ça, des cris discordants, pas très agiles. Certains goélands ont quelques cris, des miaulements un peu jolis, mais enfin, c'est très, très primitif. Alors que tous les passereaux, c'est une famille très récente, qui n'a que 10 millions d'années, les grives, les rossignols, les merles, les fauvettes, tous ces oiseaux-là, en Afrique, les coccifs, en Amazonie, les troglodytes, qui sont les plus beaux chanteurs du monde, qui ont une musique unique au monde, ces oiseaux-là, ils ont 3, 4, 5 millions d'années, pas plus. C'est juste la fin de l'évolution. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, naturellement, ces oiseaux, ils ont aussi un langage, ils ont aussi des cris d'alarme, ils ont aussi des cris pour demander à manger, la femelle a un cri pour demander l'accouplement, etc. Ils ont donc un langage qui est fait de cris. Selon les espèces, ça va de 5 cris à 60 ou 80 chez les corbeaux et les mésanges, par exemple. Ça, c'est vraiment l'ébauche d'un langage. Mais à côté de ça, ils ont le chant. Et alors, dans le chant, alors il y a une évolution qui est intéressante, c'est que, en fait, les mâles qui chantent le mieux chez beaucoup d'espèces, c'est eux qui ont le plus de chances de se reproduire. C'est-à-dire, s'ils ont un chant avec des motifs sonores très variés, et très bruyants, très forts, etc., s'ils ont la puissance, la variété des motifs, etc., les contrastes des timbres, etc., ils attirent de préférence les femelles. Il y a donc une sélection naturelle qui va dans le sens de la complexité du chant, dans le sens de la beauté du chant. Mais à l'intérieur du chant, si on prend une phrase de Merle qui chante, là, c'est pas un mot, on ne peut pas trouver un langage, je veux dire. Parce que s'il y a un cri d'alarme, s'il fait tout comme ça et qu'il s'en va, parce qu'il a peur, ça a un sens très précis. D'accord. Donc si vous êtes dans un chant, on ne peut pas trouver des phrases avec des paroles. Hein, simplement, le chant, c'est l'expression de l'oiseau, qui est peut-être aussi de son bonheur, ça on ne sait pas, moi je crois assez, mais en tout cas aussi de la possession du territoire et du fait qu'il a une femelle ou qu'il cherche une femelle.
Dans le concert d'oiseaux, est-ce que c'est vraiment un concert dans la mesure où les oiseaux chantent ensemble, ou est-ce qu'ils chantent chacun de leur côté ?
Alors là il y a une question qui est subjective. Nous, on a l'impression qu'il y a un concert d'oiseaux. Alors évidemment, on dit il y a un concert d'oiseaux, et puis alors moi, j'ai vu des gens, deux fois dans ma vie, j'ai rencontré un berger qui m'a dit, mais il faut que vous veniez absolument dans mon coin, il y a un concert, il y a un chef d'orchestre, il y a un oiseau qui est le chef d'orchestre, il y a un haut d'un arbre, c'est lui qui dirige le concert, etc. En fait, si on aborde le problème d'une façon un peu scientifique, si vous voulez, chaque oiseau chante pour les femelles et les mâles de son espèce, pour avertir les autres mâles et pour séduire sa femelle ou la garder. Et donc, on peut dire qu'en fait, ce concert, il est fait de chants individuels d'espèces différentes qui finalement n'en ont rien à foutre des autres. Par exemple, dans un concert, ça fait très joli s'il y a un concert de tonalité aiguë, s'il y a un Mettons qu'il y a une fauvette des jardins, un rossignol, un rouge-gorge. J'avais très joli quand il y a un corneille noire qui passe et qui fait quelques cris graves, parce que ça donne un contraste de timbre, etc. Mais la corneille noire, elle va crier aussi bien si les rossignols sont là ou s'ils sont pas là. Et le rossignol, il va chanter aussi bien si le rouge-gorge a été mangé par un chat la veille ou pas, je veux dire. Et alors, je crois qu'au niveau scientifique, on peut pas du tout dire que les oiseaux font des concerts interspécifiques. Alors, il existe certains oiseaux. Il y a notamment une espèce de grive à tête blanche en Chine, en Orient, qui vit en bande comme ça. Ils font des concerts en bande. C'est d'ailleurs, ça casse les oreilles. Ils sont 7, 8, 10 ensemble. Ils se mettent tous sur une branche. Ils se mettent tous à chanter comme des fous. Bon, ça c'est des oiseaux qui font. D'ailleurs, c'est pas joli, c'est pas musical, mais c'est des oiseaux qui font un concert ensemble. Mais dans la nature, quand il s'agit, mais ils sont de la même espèce. C'est des oiseaux qui sont sociaux, ils font une bande. De même qu'on peut dire, si on arrive dans une colonie de mouettes tridactyles en Bretagne, on peut entendre des centaines de mouettes qui crient ensemble, qui font un concert. Mais quand on parle de concerts d'espèces différentes, et c'est pas vrai, chacun s'occupe de ses oignons, chacun fait sa petite mélodie, fait ses petits cris, et puis sans s'occuper de vrai. Mais le résultat, nous apparaît
comme un concert.
Voilà. Alors maintenant, on va aller chercher un exemple, un joli exemple avec la fauvette Orphée. La fauvette Orphée qui chante très bien en Grèce et très mal en France. On dirait vraiment qu'elle a oublié d'apprendre à chanter. Alors je suis en train de la chercher. La fauvette Orphée, voilà, occidentale. Alors donc, on va commencer par, il va y avoir quelques cris et le chant français. C'est son langage de bataille, son cri de bataille. Mm-hmm. Ça, c'est un cri d'alarme. Il y a danger. Ça, c'est un autre cri, encore. Et maintenant, ça va être... Voilà son chant français. Titu. Très simple.
Oui, c'est très beau. Oui. Oh, je trouve ça assez beau.
Voilà. Et maintenant, on va chercher sur un autre disque son chant grec. Alors là, c'est la troisième. Voilà, alors là il y a un autre oiseau qui répond, c'est une autre. C'est beaucoup plus complexe, les phrases sont beaucoup plus longues, beaucoup plus de notes, le timbre est plus musical, plus fluté, plus pur. Et puis il y a la résonance des falaises de Delphes, et puis
le paysage de Grèce derrière, en fait.
Voilà, mais enfin, quand même, le chant est complètement différent. Hein. Bon, c'est pas le plus beau chant du monde, mais c'est une belle différence hein, entre les deux, quand même.
Mais est-ce qu'ils ont tous une façon de composer leur chant comme, comme nous, on compose la musique.
Les chansons. Les chansons des oiseaux sont aussi différents que leur plumage, et que leur taille, et que leur silhouette. C'est-à-dire que vous avez des oiseaux qui, par exemple, pour prendre des oiseaux communs, vous avez le merle noir qui fait des phrases. Bon. Alors, il fait des phrases, il a un certain nombre de thèmes, il fait des phrases régulières. Pof. Puis il s'arrête 3-4 secondes, puis il fait la prochaine phrase, puis il revient et reprend ses phrases. Vous avez le rossignol, lui qui fait des phrases assez longues, mais il a un procédé de composition très différent. Il a une douzaine ou une quinzaine de petits morceaux de phrases, notamment son fameux crescendo là, comme ça. Mais il les met chaque fois dans un ordre différent. C'est-à-dire c'est comme s'il puisait dans une boîte, au hasard, ou selon son désir, des petits morceaux de phrases. Il les met ensemble pour faire une phrase longue. Vous avez au contraire la boîte des chants qui, elle tourne dans le ciel et elle chante sans arrêt. Sans arrêt pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Sans arrêt. Et en changeant ses motifs, en les répétant parfois, mais en changeant des nouveaux motifs, etc. Bon, vous avez tous les procédés possibles et imaginables. Vous avez des oiseaux qui ont des contrastes de timbre absolument extraordinaires. Par exemple, je pense à un cossif africain que j'ai enregistré à Nairobi, là, dans les jardins du muséum. Il faisait des sons rauques, on aurait dit un jet, et puis la phrase d'après, des sons d'une pureté totale. Donc, ça, son mode de composition musicale, c'était de faire des contrastes de timbres, comme ça. Comme si un peintre mettait du noir sur un tableau et une couleur très brillante juste à côté. Hein. Et puis, vous avez au contraire des oiseaux comme le pinson, des arbres qui ont une espèce de petite ritournelle, mais comme s'ils avaient qu'un seul pipeau, quoi. Hein. C'est toujours le même son. Hein. Donc tout existe. Enfin, il n'y a vraiment pas de. On peut vraiment pas dire que il y a un procédé de composition. Et même à l'intérieur d'une même famille d'oiseaux, vous avez tout. Tout existe. Servent du chant d'oiseaux des autres, mais c'est un peu comme si, par exemple, je bâtissais ma maison en démolissant les maisons d'à côté, en prenant les briques. C'est-à-dire, il y a des oiseaux qui, comme les rousserolles verderolles, par exemple, ou l'hippolaïs cyptérine, qui font des chansons faites de toutes petites imitations, mais recollées les unes aux autres et reprises dans un rythme qui est en fait le rythme de l'espèce. Alors, Messiaen appelait ça une recréation musicale. En fait, ce qu'ils empruntent, c'est les notes, les motifs, mais très courts, puis ils les mettent bout à bout, comme ça. Alors, dans une phrase de Rousseau, il peut y avoir 2 secondes de merle, 3 secondes de mésange, 3 secondes de fauvette, un cri de corbeau, etc. Mais avec ça, elle fait un tout à son rythme à elle. Et puis, vous avez d'autres oiseaux qui n'imitent absolument personne et qui font leur... Puis, les étourneaux, par exemple, les étourneaux sont des imitateurs, en plus ils claquent du bec, ils ont une sorte de hoquet extraordinaire, ils imitent les trains dans les gares, ils imitent les bruits des mobilettes, les bruits des moteurs, enfin ils imitent tout ce qu'il y a autour d'eux, mais ils font une espèce de pot-pourri comme ça qui ne s'arrête pas. Ils imitent aussi, je me souviens aussi d'un autre oiseau, c'est la pigrièche à tête rousse, j'arrivais d'Égypte, j'avais entendu des oiseaux d'Égypte, l'engoulevent d'Égypte, le téléphone de chagrin, le bulbul, etc. Et c'était au mois de mai, et dans mon jardin, il y a une pigrièche qui arrive, et dans son champ, je retrouve absolument tous les oiseaux que j'avais entendus en Égypte, 7-8 espèces. Et en fait, j'ai regardé dans mes bouquins et tout, et j'ai vu qu'il y a une partie des pigrièches qui nichent dans le midi, qui viennent en Égypte. Et en fait, elle racontait son voyage. Elle avait pris l'habitude, en hiver, de chanter des trucs qu'elle entendait. Et donc, les chantant dans mon jardin, comme moi j'arrivais du même pays qu'elle, je voyais là où elle avait hiverné.
La palanca ajungea și din gură că striga, l-o scutit. tato, olia mwen jojko, diktatoria.
Il y a des oiseaux aussi qui chantent en duo, et vraiment à deux voix. Et en cinq. Alors, on a l'habitude d'appeler ça, l'appellation est peut-être en français, peut-être venue de mes premiers articles que j'écris il y a 30-40 ans, on appelle ça un duet. C'est-à-dire qu'un duo, ce serait deux oiseaux qui chantent, mais ils font du bruit ensemble, et un duet, c'est deux oiseaux dont le chant est complètement synchronisé, comme le chant des pygmées, par exemple. Il y en a un qui chante au clair, l'autre qui chante de la lune, mon ami pied. Oh, mais ça fait au clair de la lune, mon ami Pierrot, mais c'est chanté par deux oiseaux complètement synchronisés qui font une seule mélodie, mais parfaitement stable à eux deux. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux africains qui chantent en duet. Il y a des pigrièches qui chantent en duet. Il y a des oiseaux en amas. Dans tous les endroits où il y a une jungle très épaisse, dans toutes les zones tropicales du monde, dans les forêts tropicales, il y a des oiseaux qui font des duets. C'est une façon pour eux de se reconnaître par couple. Alors quand ils se rencontrent, ils mettent au point des duets pendant quelques semaines, c'est pas très au point, puis à la fin, quand le couple est formé, ils font des duets absolument parfaits. Alors, par exemple, la Boubou Shrike en Afrique, elle fait tololo, la femelle fait tololo, et le mâle répond tololo, mais c'est absolument parfait au niveau synchronisation, tololo, tololo, et chaque oiseau est capable de faire la phrase complète à lui tout seul. Mais en général, il en fait une moitié, et quand il y en a un qui commence la phrase, il y a l'autre qui la finit. Et ça, c'est un lien auditif, un lien sonore du couple dans un habitat où la vision est presque impossible. Alors pour ce chant d'alouette là, d'alouette des champs, on va l'écouter à puissance normale, comme on l'entend dans les champs, le matin, à l'aube, quand l'alouette monte à la rencontre du soleil. Alors je vais l'enregistrer maintenant. En 76, c'est-à-dire à grande vitesse. Alors, on a bien l'impression d'un chant aigu, comme ça, on entend bien des motifs, un petit peu, mais... Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On va maintenant le réécouter en ralenti 4 fois, c'est-à-dire en 19 cm seconde. Alors je reviens à zéro. Voilà, et je le mets en 19. Voilà. Des motifs qui nous ont complètement échappé, qu'on n'a pas pu saisir parce que la voix des chants est trop rapide pour notre oreille. Alors, je vais arrêter et on va l'écouter encore ralenti une fois en 9.5 sur l'autre magnétophone à côté.
L'alouette des champs, c'est celle qui chante Donc le matin, avant le lever du soleil,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, qui monte vers le soleil. Elle chante aussi bien en des Alpes, dans les pâturages, que dans la plaine en Brosse, en Brie, ou dans les champs en Normandie, ou en Provence. C'est une alouette qui chante partout.
Elle chante en vol ascendant ou descendant ?
En vol circulaire, comme ça. Elle monte en chantant, puis après elle chante en vol circulaire. Après elle descend au bout de 10 minutes ou 20 minutes. Alors la voilà encore plus ralentie, alors. Même ralenti comme ça 8 fois, il y a des trilles qui sont tellement rapides, hein, encore maintenant, qu'on les saisit à peine. Hein, on entend à peine la grâce sonore. Hein. Ça veut dire que là, c'est des choses qui nous échappent, alors totalement vitesse normale. Ouais. Et là, on voit bien qu'elle fait des espèces de motifs ciselés, vraiment hein, comme des motifs musicaux, et puis qu'elle les répète avec plaisir, elle prend plaisir à répéter 2, 3, 4 fois, puis après elle en fait un autre, etc. Ouais. Une alouette des champs peut chanter comme ça le matin, des heures et des heures, en renouvelant énormément ses motifs. Elle peut en avoir une centaine dans son répertoire, et faire vraiment des choses. Et chaque alouette a son chant à elle, c'est-à-dire elle a des chants en commun avec l'alouette voisine, mais elle a des chants, des motifs dans son chant qui la caractérisent elle seule et qui permettent sûrement à sa femelle de la reconnaître. D'accord. Donc il y a à la fois un chant d'espèces qui est un peu typique, il y a à la fois des espèces, des expressions communes, enfin des motifs communs avec les autres alouettes du secteur, et en même temps il y a quelques motifs qui sont purement individuels qui permettent de la reconnaître, sa carte d'identité. Voilà. Parce que l'alouette, c'est un oiseau qui vit à 43 degrés, avec un temps psychologique beaucoup plus rapide que nous. Et elle a un temps biologique aussi, donc plus rapide, elle a un cœur qui bat beaucoup plus vite, etc. Et donc elle vit dans une autre dimension temporelle que nous, en fait. Elle vit dans un autre monde que nous, où le temps est beaucoup plus rapide, enfin, est beaucoup plus court, en fait. Et c'est pour ça qu'elle arrive à faire 400 sons dans une seconde, alors que nous, au bout de 40, on les entend même pas séparés, quoi. Donc elle est dans un autre monde, voilà. L'oiseau n'est pas du tout fait comme nous, si vous voulez. D'abord, il est bâti pour voler. Ça veut dire qu'il a une poitrine et des pectoraux très développés, et il a une capacité pulmonaire très importante. Et ça facilite le chant. On peut dire que, c'est facile de comprendre qu'un ver de terre n'est pas fait pour chanter. Morphologiquement, il n'a pas les moyens. Et un oiseau, il a déjà la capacité pulmonaire. Puisque chanter et mettre un son, c'est faire passer un souffle. N'est-ce pas, dans sa gorge, donc voilà. Donc l'oiseau est vraiment, il a la capacité de chanter et de voler, ça va ensemble. Deuxièmement, l'oiseau, il n'a pas des cordes vocales comme nous, mais il a un syrinx. En fait, un syrinx, c'est une espèce de sifflet qui se divise en deux parties, en deux branches. Et il a la capacité d'émettre un son avec un syrinx d'un côté, syrinx droit par exemple, et un autre son avec le syrinx gauche. Comme si, par exemple, je pouvais chanter au clair de la lune et m'accompagner à la tierce en même temps. Chanter les deux. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui émettent deux sons fondamentaux en même temps. Et en plus, ils ont l'habitude de pouvoir moduler les harmoniques. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des harmoniques paires ou impaires avec son syrinx d'un côté, mais de l'autre, il va peut-être faire un son sans harmonique très pur, par exemple. Donc, si vous voulez, ils ont une capacité absolument fantastique de moduler des sons depuis le son pur, sans harmonique, jusqu'au son, quasiment le son blanc, le cri d'un jet, c'est comme si on, au niveau sonore, c'est comme si on appuie sur toutes les touches d'un piano à la fois. Hein. C'est un son qui n'a pas de hauteur, il est sur toutes les fréquences, il est multifréquence. Voilà. Souvent, les cris d'alarme sont multifréquences, parce que, comme c'est un cri d'alarme qui doit prévenir, s'il y a des fréquences qui sont absorbées par la végétation, par un écran, par un mur, il y a quand même une partie des fréquences qui passent l'obstacle.
Bon, alors, je sais pas, moi. Hein.
Donc là, on va faire une sortie en extérieur. Alors,
ce qu'il faut faire, là, pour... Oui.
On a mis la parabole sur le nagra et on va aller essayer d'écouter des oiseaux.
Alors, c'est une tentative un peu désespérée, vu qu'il fait -2 ou 3 et qu'il y a de la neige partout.
Oui.
Alors, la technique, alors, ça consiste à mettre le gain assez fort et à faire à tourner avec la parabole, à suivre la ligne d'horizon, de façon à... Parce qu'on peut entendre un son à 500 mètres ou 1 km quand même. Hein. Alors donc, en mettant du gain. Donc ça va consister à explorer le son autour de nous avec la parabole. Alors on va s'arrêter là, par exemple, et puis on va essayer, en amplifiant, on va essayer d'écouter ce qui se passe tout autour. Alors, on peut faire comme ça. Hein, je prends la parabole et puis voilà. Alors, comme j'ai pas les écouteurs, voilà.
Je mets à fond là.
Oui, oui, plus à fond, oui. Alors là, évidemment, j'ai un bruit pas possible. Là, il y a une source. Je fais le tour de l'horizon. Hein. C'est un bouvreuil.
Alors ça c'est quoi?
C'est un bouvreuil. Il a son plastron rouge, tout rouge. Et il est noir, gris et blanc. Bruit des ailes, il s'envole. Il y a une voiture qui arrive aussi. On va le suivre à la parabole. Voilà, c'est parti de l'autre côté. Ah voilà, il est beaucoup plus loin. Ah, un grand corbeau. Ah, un cri de grive. Elles font tcha-tcha-tcha et en Provence on les appelle les tcha-tcha. C'est le cri qu'elles font, voilà encore qui passe là. Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Bon, on a eu une chance extraordinaire dans quelques minutes. Un bouvreuil qui chantait, des grives, une dame de grive, un grand corbeau, c'est fabuleux là. Voilà une autre là. C'est une bande, oui, il y a une bande qui... Elles peuvent être 100 ou 200 facilement. Hein. Il y a des grandes bandes, il y a des petites bandes, des grandes bandes. Là, il y en a presque une centaine là. Mais c'est les sons de l'hiver, voilà. Alors qu'au printemps, il y a au moins 15 ou 20 espèces d'oiseaux qui chantent là, comme des fous, partout. Et entre Mince et le sommet de la montagne, là, on a observé 123 espèces d'oiseaux différentes en quelques années. Ce qui est exceptionnel. C'est parce qu'on est à la fois dans le Midi, ici, et dans les Alpes. Et il y a à la fois les oiseaux des cultures dans la plaine et les oiseaux de montagne là-haut. On en est à 123 espèces, c'est extraordinaire. On a même eu des cigognes blanches qui se sont posées sur les toits de Mince le jour où je faisais un concert d'oiseaux dans la ville. Il y avait un concert d'oiseaux de programmé dans le parc et pour le public. Et il y a 7 ou 8 cigognes qui sont venues, qui se sont posées juste pendant le concert sur le clocher.
Et c'était un signe des dieux.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre l'homme, qui se met à faire de la musique, lui aussi, et l'oiseau, qui s'est mis à faire de la musique aussi. Alors, il y a aussi une convergence au niveau de la danse. Il y a un Anglais qui a travaillé là-dessus, j'ai perdu son bouquin que j'ai prêté, qu'on ne m'a pas rendu, mais il a été dans beaucoup d'endroits où les populations primitives font des danses. Et il a vu que ces danses portaient le nom d'un oiseau, et souvent que les indigènes se plantent des plumes de cet oiseau dans les cheveux ou sur les fesses ou dans leurs chaussures, etc. Et ils imitent la danse de l'oiseau. Et c'est ainsi qu'en Amérique du Sud, il y a des Indiens qui font la danse du casoar. En Australie, il y a des Bushmen qui font la danse de la grue. Et donc, la théorie de ce monsieur était que l'oiseau était le maître de musique, mais le maître aussi de danse de l'homme. Et c'est vrai que l'oiseau est très, très différent au niveau intelligence de l'homme. L'intelligence de l'homme se rapprocherait beaucoup plus, par exemple, de celle du chien ou des grands singes, qui sont même capables d'apprendre un langage. Mais au niveau artistique, au niveau musical, il semblerait qu'il y ait une convergence entre l'homme et l'oiseau et qu'ils soient capables d'apprécier, chacun est capable d'apprécier la musique que fait l'autre. C'est-à-dire que des oiseaux dans des HLM à Paris, ils répètent les tubes qu'on entend à la radio, ils les incorporent dans leur chant. Et en Afrique du Sud, quand je voulais savoir s'il y avait un cossif dans une forêt, je chantais, je sifflais par exemple le pont de la rivière Kouai. Et l'oiseau venait, il me répétait. Et c'est tellement bien répété qu'ensuite, quand j'avais enregistré, je n'arrivais plus à savoir si c'était moi ou l'oiseau qui avait chanté, parce qu'il répétait avec le timbre exact de ma voix. Donc c'est assez extraordinaire cette capacité d'imitation que certains oiseaux ont.
Dans les heures sombres, quand mon inutilité m'est brutalement révélée, quand toutes les langues musicales, classiques, exotiques, antiques, modernes et ultramodernes, me semblent réduites au résultat admirable de patientes recherches, sans rien que derrière les notes justifie tant de travail, que faire ? Sinon retrouver son visage véritable, oublié quelque part dans la forêt, dans les champs, dans la montagne, au bord de la mer, au milieu des oiseaux. C'est là que réside pour moi la musique libre, anonyme, improvisée pour le plaisir, pour saluer le soleil levant, pour séduire la bien-aimée, pour crier à tous que le pré ou la branche sont à vous, pour arrêter toute dispute, dissension, rivalité, pour dépenser le trop-plein d'énergie qui bouillonne avec l'amour et la joie de vivre, pour trouer le temps et l'espace et faire avec ses voisins d'habitat de généreux et providentiels contrepoints, pour bercer sa fatigue et dire adieu à telle portion de vie quand descend le soir. Divinement parle Rilke. Musique, haleine des statues, silence des images, langue où prennent fin les langues. Le chant des oiseaux est encore au-dessus de ce rêve du poète. Il est surtout très au-dessus du musicien qui essaie de le noter. Olivier Messiaen, avril 1959.
Thank you.
Alors
là, il n'y a que l'oiseau, l'alouette de Messier, on n'a pas encore commencé à chanter.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est le paysage pour Messier, les graves, les rochers. Voilà. Simultanée de Messiaen et de l'oiseau. Hein. Jamais entendu jusqu'ici. Je n'avais pas essayé.
C'est vrai qu'on la reconnaît bien. Hein.
On la reconnaît bien et en même temps, quand même, il y a une part de création, bien sûr. Hein. Est parti avec d'autres oiseaux et d'autres choses. Là, donc on peut
d'accord.
dire, on peut arrêter la comparaison là, ici. Mais si on transcrit ça au piano avec des accords, mais sur des notes fixes, les touches du piano, c'est une gamme fixe, et bien malgré ça, on reconnaît en quelques secondes la louette Lévy parce que, je sais pas, il a compris, c'est comme un caricaturiste qui comprend tout de suite dans un visage les chances de. Les traits essentiels, lui, il a compris vraiment l'essence de la musique de l'Alouette Lulu et des autres. Mais il n'a pas fait d'études, à ma connaissance, au ralenti. Mais si je n'ai jamais entendu dire qu'il avait fait des études de chant d'oiseau au ralenti,
oui.
en ralentissant 16 fois.
Non, je ne pense pas, mais moi, j'ai lu qu'en fait, il... Le départ de son travail, en fait, c'est l'écoute du chant des oiseaux. Il les transcrit, alors il les note, en fait.
Oui, il avait une sorte de sténo.
Il a travaillé chez vous, c'est
il a travaillé chez moi, il est venu chez moi régulièrement pendant des années, oui. Il arrivait le matin à 7h en banlieue de Paris. Et puis, il me demandait de commencer tout de suite. Alors, je lui dis, est-ce que vous voulez un café? Il disait oui. Je servais un café, je lui mettais le café à côté de lui. Il travaillait jusqu'à midi. Il n'avait pas bu le café. Et à midi, je lui disais, mais on va déjeuner. Il me disait, mais est-ce que je peux continuer à travailler? Alors je lui disais, je vous apporte à déjeuner. Il me disait, oui. Je lui donnais, un plat de carottes et puis un dessert ou une côtelette. Et à 5h du soir, il y avait encore tout sur la table. Il n'avait pas mangé. Il avait travaillé 8 ou 10 heures d'affilée, sans arrêt, sans même boire un verre d'eau. Et le soir, il me disait, vers 5-6h, il me disait, il faut que je parte maintenant. Et il n'avait rien pris, ni café, ni déjeuner. Ni rien. Et il avait un secret, je ne sais pas à qui il a légué son secret, probablement à sa femme Yvonne Doriot, mais il avait une sténographie, il prenait les chants d'oiseaux pratiquement à la vitesse normale. Bon, quelquefois, il revenait en arrière, sur un magnétophone, c'est facile, il y a une touche arrière, il revenait un petit peu en arrière quand il y avait un motif complexe. Mais enfin, il était capable de sténographier des chants d'oiseaux. Oui. J'aurais bien voulu qu'il m'explique, il n'a jamais. Mmh. À moi, il n'a jamais voulu me le dire.
Vous n'avez même pas vu sous quelle forme il notait.
Je l'ai vu. Si je le voyais, il faisait des pages devant moi, mais enfin, je n'osais pas l'espionner et puis essayer de comprendre.
Il réadaptait complètement les sons qui sont émis par les oiseaux à l'anatomie et à la biologie humaine. C'est-à-dire que si les sons sont dans des fréquences très hautes...
Il les transposait un peu
à notre
écoute. Il y avait sûrement un travail de transposition, oui. Mm. Mais en même temps, c'était très fidèle quelque part. C'est complètement transposé, puisqu'il faisait ça sur des instruments qui ont des notes fixes, et que les oiseaux, eux, ils n'en font pas de notes fixes. À quelques exceptions près, il y a quelques dizaines d'oiseaux dans le monde qui ont une échelle tonale, comme les troglodytes musiciens d'Amazonie, qu'on pourra peut-être écouter, si vous voulez, mais c'est tout à fait rarissime. Et lui, il n'avait à sa disposition pratiquement que des instruments qui avaient des notes fixes, mais il a tellement bien compris, je sais pas, c'est de la magie pour moi. Il a vraiment traduit ça d'une façon merveilleuse, oui. Je reconnais tout de suite ces oiseaux.
Ah ouais.
On passait trois secondes de messiaen, je vous dis, ça c'est la rousserolle et farva, ça c'est la plus... Oui. Il a compris l'essentiel du chant, l'âme du chant, oui. Au Sahara, j'étais ensablé avec ma voiture, très loin de tout village. Ma réserve d'eau était crevée. Et donc j'étais en danger de mort, à court terme. Et j'ai commencé à creuser désespérément le sable avec mes bras, j'avais même pas de pelle pour pouvoir passer. Et à ce moment-là, il y a un sirli du désert qui s'est mis à chanter juste à côté de moi. Et il avait une espèce de chant comme une mélopée arabe, très très beau, un chant très pur, juste qui est fait de deux phrases. Alors, il commence à faire des sons avec des quarts de ton, c'est de la musique, on dirait de la musique iranienne. Ta, 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 comme ça, il fait une phrase très très pure, très jolie. Puis après, il s'arrête, il saute sur un caillou, et puis il fait ta la la la, il fait une quinte. Et là, à ce moment-là, il se lance dans les airs à 2 ou 3 mètres. Et puis il redescend en parachute, il fait ta-la-la-la, comme ça, il finit sa chanson. Mais c'est une espèce de danse. Alors moi, je voyais ça comme une danse de la mort. Cet oiseau était à côté de moi. En plus, j'avais essayé de l'enregistrer le jour précédent. Il était toujours loin, il fichait le camp. Et là, j'avais presque envie de lui jeter un caillou parce que je ne supportais pas qu'il chante pendant que moi, j'étais en train de crever.
Amici cari, come sempre, finisce così, comincia così, si chiude così, continua così. Questa storia di uccellacci ed uccellini.
C'était Un oiseau au micro par Pascal Mons et Marie-Laure Ciboulet. Merci à Jean-Claude Rocher et Yannick Grimbert, au Gonolec à ventre blanc,
à la fauvette orphée, au chouca, à l'alouette des champs, au bouvreuil, au grand corbeau, à la grive, à l'alouette lulu et au cirli du désert. Prise de son Marcel Lebras, mixage Édouard Campras, Emmanuel River. Nuit magnétique, bonsoir.
A été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 février 1998.